m'appelle Morgane et je suis la porte-parole du collectif. Enfin, c'est celle qui parle dans le mégaphone, enfin, qui dit les slogans.
Denis, membre du collectif, intéressé par les questions de climat depuis très longtemps.
Je fais partie du collectif. J'ai représenté l'Union syndicale solidaire dans le collectif.
Alors le collectif Arajoie pour le climat appelle à une marche festive ce samedi 6 novembre. Le rendez-vous, en tout cas pour l'instant, c'est à 14h30 au départ de la place Foch à Arras. C'est la journée internationale de lutte pour le climat. Dans le cadre des négociations de la COP26, vous avez édité un texte d'appel pour cette manif de samedi, un texte où il y a beaucoup de choses, un texte assez fort qui parle d'engagements qui ne sont pas à la hauteur et même de crimes climatiques. Un mot peut-être sur cette expression de crime climatique ?
En fait, on considère que l'inaction climatique de nos dirigeants, le fait qu'ils ne réagissent pas, c'est un crime presque contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on laisse dégrader le climat au point de non-retour en fait.
Denis ?
Oui, en plus ça fait tellement longtemps que cette inaction dure, des dizaines d'années, ça va devenir de plus en plus difficile de faire la transition et pourtant elle est de plus en plus nécessaire. Donc il y a un aveuglement collectif de tous les dirigeants qui, visiblement, il faut les secouer pour qu'ils se mettent à réagir, parce que c'est pas possible de continuer comme ça, quoi.
Jean ?
Oui, je vais juste rappeler que l'État français a été condamné pour inaction climatique et qu'il est condamné à agir vis-à-vis de la juridiction compétente.
Alors, le texte que les auditeurs et auditrices pourront lire aussi sur le site est 1 et 2 et 3 degrés.com. C'est le site du collectif Arajoie pour le climat, dénonce aussi le greenwashing, la fuite technologique qui, je cite, loin de résoudre la crise climatique, empêche toute transition réelle. Un petit mot là-dessus d'explication, Morgane ?
En fait, du coup, ce que les gouvernements proposent et ce que les entreprises aussi proposent, c'est d'améliorer le climat via des progrès technologiques. Or, on sait que les progrès technologiques vont pas aller assez rapidement et que c'est juste une façon de dire on bouge pour le climat alors qu'on sait que c'est pas assez.
Oui, ces idées correspondent au fait de continuer à sur notre lancée pendant encore un certain temps et d'espérer revenir en arrière, en retirant du CO2 de l'atmosphère ou des trucs comme ça, ce qui est extrêmement incertain et problématique. Alors, par contre, il y a d'autres technologies qui, elles, sont parfaitement mûres et qu'il faudrait appliquer tout de suite. C'est par exemple les énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles. Et par ailleurs, de la sobriété énergétique ne ferait pas de mal.
Jean ?
Oui, je voudrais simplement préciser déjà que le dérèglement climatique, il n'est pas à venir. Il est déjà existant. Il faut se rendre compte qu'on est déjà à plus 1,1 degré d'augmentation de la température moyenne à la surface du globe par rapport à l'ère pré-industrielle. 1,1 degré. Et avec cette augmentation de la température, on a déjà une situation climatique et une situation dans le monde qui est déjà catastrophique. Avec les incendies, vous avez vu les inondations, etc. Tout un tas de phénomènes et déjà des réfugiés climatiques. Autrement dit, la catastrophe, elle est déjà présente. Et elle était déjà présente il y a déjà un grand nombre d'années. Et la COP 21 en 2015 à Paris avait déjà indiqué qu'il fallait rester en dessous de 2 degrés, et si possible en dessous de 1,5 degré. D'ailleurs, entre 1,5 degré et 2 degrés, le GIEC a bien précisé que c'était très risqué de dépasser les 1,5 degré. Or, qu'est-ce qu'on voit avec les États qui vont se rassembler lors de la COP26, qui sont déjà rassemblés, qui sont en cours de négociation, c'est que tous ces États ont relancé la croissance capitaliste. Ils ont tous relancé la croissance capitaliste et relancé les émissions de gaz à effet de serre. Et si on veut passer aux énergies renouvelables, il faut le faire, il faut sortir des énergies fossiles, eh bien, il faut faire le contraire de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il faut arriver à diviser au moins par deux la consommation énergétique. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs par le scénario Négawatt qui vient de sortir, ce qui implique une diminution de la production, une diminution massive de la production et de la consommation. Et c'est-à-dire, à ce moment-là, se tourner vers les besoins réels, sociaux, de la population, démocratiquement débattue. Et on est loin de tout ça avec la COP26.
Alors quand même, parce qu'on parle d'inaction politique et climatique, mais depuis le début de la COP26, il y a eu quand même quelques accords hein, sur l'émission de méthane, sur la lutte contre la déforestation. Comment vous voyez un petit peu ces négociations, ces accords ?
Moi j'ai l'impression que c'est de la fumée. Parce que ce qu'il faudrait, c'est des accords globaux, que tous les pays soient d'accord, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait. C'est juste de la fumée dans le sens où ils nous font voir des mondes et merveilles, mais dans les faits, il n'y a pas eu plus que ça. On veut des choses concrètes, on veut que ça soit autant écologique que social, parce qu'on sait que les pays qui risquent le plus avec le réchauffement climatique, ce sont les pays du Sud, et les pays du Sud ne sont pas les pays les plus développés, et ils laissent faire totalement. Et si je veux rajouter une fun fact sur cette COP26 qui m'a fait beaucoup rire jeune il y a deux jours, c'est que la plupart des dirigeants sont venus en jet privé à la COP26. Or, on sait que les jets privés, c'est ce qui pollue le plus. Et c'est aberrant. Ils sont tous venus en jet, en avion privé, etc. Et après, ils nous expliquent comment faire pour limiter le réchauffement climatique. C'est un peu du foutage de tête.
Denis ?
Si on se souvient un peu de la COP21, il y avait un gros débat sur est-ce qu'on doit arriver à quelque chose de juridiquement contraignant. Visiblement, ce débat, il n'a plus lieu, c'est-à-dire qu'on va rester à des choses juridiquement non contraignantes. Donc pour moi, un engagement de Bolsonaro à protéger l'Amazonie qui soit juridiquement non contraignant, ça ne m'enthousiasme pas énormément. Hein.
Jean ?
Non, la réponse de Denis est parfaite. Hein. Oui, on a vu ce que ça a donné, les accords de Paris, hein, quand l'accord de Paris sur la COP21. Les gens étaient enthousiastes, les chefs d'État, les commentateurs et même une partie des écologistes trouvaient ça miraculeux, alors en fait que c'était tout simplement catastrophique. Si on respectait les accords de Paris, on serait sur une trajectoire d'environ un réchauffement climatique de 3 degrés à la fin du siècle. Donc non seulement les accords de Paris était insuffisant, et en plus ils ne sont pas respectés. C'est une catastrophe.
Un mot aussi sur le positionnement du chef d'État français. Hein. Comment vous avez vu, on a l'impression d'un discours volontariste hein, d'Emmanuel Macron, mais dans les faits, voilà, c'est pas toujours suivi d'action. Il y a des gens qui dénoncent aussi une forme de double discours d'Emmanuel Macron.
En fait, on sait que c'est les présidentielles dans quelques mois, et on sait qu'il a envie d'être réélu. Et du coup, la question écologique, elle est centrale dans la vie quotidienne des gens. Et donc, se mettre en avant sur la COP26 en se disant volontaire pour trouver des accords au mieux, c'est juste un discours purement politique et qui ne va pas être suivi. Et c'est juste pour faire beau. Enfin, c'est ce que je pense.
Denis ?
Ouais, je ne suis pas trop d'accord avec Morgane. L'idée, ce n'est pas qu'on est juste avant la présidentielle, c'est qu'il a déjà fait 90% de son mandat. Et donc 90% de son mandat à dire discours volontariste, discours volontariste, discours volontariste, non, on attend un peu autre chose du contenu d'un mandat.
Jean ?
Oui, j'ai rappelé précédemment le fait que l'État français a été condamné pour inaction climatique. Voilà, ça dit tout. Et puis on a vu comment Macron a traité les propositions émanant de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, les faits sont là. Alors la France se glorifie d'être parmi les meilleurs élèves, etc. Bon, il faut noter quand même que la baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe, en France, cette baisse, elle est fortement liée à la désindustrialisation. En fait, on déplace les lieux où on émet les gaz à effet de serre, et on les émet de manière différente, sur des places différentes, par exemple dans les pays asiatiques et en Chine. Mais si on fait la véritable empreinte carbone de l'Europe et de la France, on s'aperçoit que c'est pas bon. On n'est pas sur la bonne trajectoire.
Alors face à ce constat, ce que vous et d'autres collectifs appellent, c'est qu'il y a une forte mobilisation populaire, d'où ce rendez-vous à Arras, mais il y a d'autres rendez-vous partout en France au cours de la semaine et notamment ce samedi. Alors un petit mot sur cette manifestation qui se veut festive. Comment vous alliez le côté revendicatif et puis le côté ouvert à tous, festif, familial aussi.
En fait, ça peut être bête, mais les slogans peuvent jouer. Il y a des slogans où les enfants scandent et ils ont conscience de ce qu'ils disent. Le nom de notre site, c'est 1 et 2 et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité et ça parle à tout le monde. Et en fait, c'est des slogans. C'est moi qui scande les slogans. C'est peut-être pour ça que je vends ça. Mais aussi, c'est une marche ultra familiale où il y a une bonne ambiance. On leur demande de ramener avec des instruments. Les enfants, les poussettes. On voit que c'est vraiment quelque chose de commun. Et que c'est devenu, on entend dire les gens, c'est quand la prochaine marche ? Parce que c'est bien, il y a des musiques, c'est quelque chose qui bouge tout simplement. Et du coup, ça fait appel à tout le monde. Et quand on allie le festif, le festif, c'est juste les individus qui le ramènent parce qu'on ne perd pas espoir. On peut être pessimiste, mais on ne perd pas espoir.
Denis et Jean, sur le caractère festif de la manif ?
Alors le caractère festif, effectivement, c'est toujours plus agréable. Et c'est surtout un caractère optimiste et constructif qu'on veut. Parce que par rapport à l'actualité, on a une thématique qui est de dire il faut à la fois, pour le climat, mais aussi pour le pouvoir d'achat, sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Donc on est sur l'idée d'une écologie qui récompense, et non pas, il y a certaines personnes qui prétendent que c'est une écologie punitive, non. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles, eh bien, si on l'avait fait depuis un bout de temps, ça aurait évité qu'aujourd'hui, il y ait des hausses des prix de l'énergie qui pénalisent tout le monde.
Oui, simplement une remarque par rapport à la question telle qu'elle a été posée. Les manifestations qui auront lieu le 6 novembre, elles ne sont pas simplement en France, elles sont mondiales. Hein. Et en particulier, elles auront lieu en Écosse, à Glasgow, ça va se mobiliser partout. Et vous avez bien lu le texte de l'appel. On souhaite un ouragan citoyen pour renverser la table des négociations. C'est vraiment ça qu'il faut. Alors un ouragan, ça peut être un ouragan citoyen, ça peut être joyeux.
On est toujours en compagnie de Morgane, Denis et Jean du collectif Arrajois pour le climat, collectif qui organise la marche climat à Arras demain samedi après-midi, une manif qui se terminera par une action symbolique, un die-in.
Le die-in, c'est pendant une minute, on s'allonge par terre et il y a quelqu'un qui lit un texte qui ne dure pas forcément une minute, contrairement. Enfin, on s'allonge, mais le texte peut être très court. Et du coup, c'est juste, on s'allonge pour signifier la détresse et la mort de la biodiversité. Mais à la fin du die-in, on se relève et on s'applaudit parce qu'on se réveille aussi, parce qu'on veut que la société et les gouvernements se réveille autant que nous, on va se réveiller au moment du die-in.
On peut peut-être ajouter, hein, puisque donc, c'est la date importante de l'agenda écologique arrajois, mais il y a peut-être d'autres dates à venir, notamment peut-être pour les gens qui s'intéressent à l'écologie. Dans le cadre du Arras Film Festival, il y a un film, le nouveau film de Cyril Dion qui sera projeté. Il y a une rencontre qui est prévue entre le collectif et Cyril Dion. Comment ça se passe ?
Alors il y a deux projections du film de Cyril Dion, Animal, voilà, c'est ça que je cherchais. Une à 18h30, tout public, et puis il y a une séance scolaire dans l'après-midi. Alors le collectif a demandé à voir s'il était possible de rencontrer Cyril Dion avant ces deux séances. Bon, on se doute évidemment que ces séances vont être complètes. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais on aimerait bien le rencontrer, évidemment, pour qui nous fasse part un peu de son expérience et comment il voit la COP26 et le contexte général. Bon, il est très impliqué, évidemment, dans la plainte qui a eu l'affaire du siècle, hein, où, justement, l'État français a été condamné. On pourrait discuter avec lui de ce que ça devient.
Dernier mot, peut-être, c'est au niveau local également. Donc, il y a ces marches, il y a les rencontres qui sont régulièrement organisées par le collectif. Et puis, il y a aussi une action de peser sur les politiques locales, notamment au niveau de la communauté urbaine d'Arras. Où ça en est, ça, au niveau du collectif, après quand même des mois difficiles, hein, du fait de la crise sanitaire ?
Bah, déjà... Le dialogue n'est pas rompu avec monsieur le maire et la communauté urbaine d'Arras. Et en fait, on a un groupe de travail qui s'appelle
Action locale.
Action locale, oui, c'est ça.
Liaison avec les élus.
Liaison avec les élus, où on essaye de faire réagir la population et de dire à la ville que la population, elle recherche une nouvelle mode alternative de vie sur Arras. On a pu voir notamment le fait qu'il y a beaucoup plus de compost dans les quartiers, etc. C'est pas nous. Mais nous, on veut accompagner aussi. On a été invités pour le réaménagement du quartier de la gare lors de discussions pour pouvoir aussi parler de la mobilité propre. On essaye à notre niveau de faire réagir. Après, le dialogue est pas rompu, mais on n'arrive pas trop à communiquer quand même.
Oui, il y a une réflexion sur un plan alimentaire territorial aussi, parce que l'alimentation est très liée au climat. À la fois, savoir si on mange plus ou moins de viande, ça a beaucoup d'importance. La manière de cultiver les champs, ça a beaucoup d'importance aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça nécessite effectivement une réflexion avec les élus et on est partant pour ça.
On a vu il y a 2 ans, avant les confinements, une réaction de la part de la jeunesse avec des grèves climatiques, des marches qui ont été soutenues par la jeunesse. Et en fait, on voudrait que la jeunesse arrageoise, elle se réveille avec nous. Au moment du day-in, on veut que les jeunes sont autant impliqués et ils savent que c'est maintenant. Et du coup, moi qui suis encore étudiante, je sais que si on ne réagit pas tout de suite, on va droit dans le mur. Et que c'est aussi social parce que la jeunesse, elle a manque de pouvoir d'achat, comme Denis disait. Et nous, on veut une transition écologique, mais sociale, avec la jeunesse, avec les étudiants, avec les classes un peu plus populaires. Et on espère qu'ils seront nombreux parce qu'on sait que c'est des questions qui leur touchent.
Effectivement, les générations qui ont vraiment beaucoup profité de... la société un peu année folle de consommation d'énergie débridée. Donc cette génération à laquelle appartiennent un grand nombre de décideurs économiques, politiques, etc., a une lourde responsabilité à l'encontre de la jeunesse. Donc la jeunesse a raison de se révolter dans un cadre non seulement social et politique qui est évidemment pertinent, mais aussi générationnel contre les perspectives qu'elle a aujourd'hui pour l'avenir qui ne sont pas géniales.
Ouais, peut-être préciser, quand même parler de l'urgence climatique. Hein, l'histoire des 1,5 degré, le dépassement des 1,5 degré, hein, c'est dans le rapport du GIEC. Si on poursuit la trajectoire actuelle, le dépassement des 1,5 degré, c'est 2030. Et à partir de 1,5 degré, entre 1,5 degré et 2 degrés, alors souvent on dit, si on peut rester en dessous des 2 degrés, ça va. Non, il y a des risques très forts avec des boucles rétroactives très incontrôlées, dont une question qui est posée, c'est la question de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Et le GIEC dit que c'est possible entre 1,5 degré et 2 degrés. Donc on voit quand même qu'il y a une urgence très forte. Après, sur l'histoire, la mobilisation des jeunes, évidemment, les jeunes sont sensibles à ces questions et c'est très bien, les responsabilités générationnelles, on peut toujours en parler. Maintenant, il faut prendre en compte la dimension sociale. Il faut toujours avoir en tête ces chiffres-là. 7% de la population, les 7% les plus riches, sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et si on prend 45% de la population des plus pauvres...
Mondiale, hein.
Mondiale. Mmh. Sont responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça donne une indication quand même sur les responsabilités. Si on fait le total des émissions de gaz à effet de serre cumulées depuis la période pré-industrielle, on s'aperçoit que quasiment la moitié est de la responsabilité de l'Angleterre et des USA. On voit aussi la question de le peu de responsabilité, alors qu'ils sont en première ligne sur les conséquences, des pays du Sud. Donc il faut prendre tout ça en compte et dans les propositions qu'on peut faire.
Sur l'urgence climatique, effectivement, donc Jean a parlé de rétroaction positive. Alors, traduction en français courant, il y a deux traductions, soit cercle vertueux, soit cercle vicieux. Cercle vicieux, ça veut dire que si on ne fait rien, le fait de ne rien faire, ce n'est pas qu'on laisse les choses qui vont se calmer. Au contraire, ça va être de pire en pire. Et cercle vertueux, ça veut dire que par contre, si on agit très fortement, logiquement, on peut quand même espérer avoir des résultats positifs.
Et nous, on est plutôt dans le point de vue positif, évidemment. Parce qu'on n'est pas pessimiste et on ne veut pas accuser la population en disant « vous ne faites pas assez d'efforts ». On sait, il faut le rappeler, que la population elle doit changer son mode de vie, ça c'est sûr, mais que ce n'est pas elle qu'on doit accuser, c'est plutôt les entreprises. Quand on voit Jeff Bezos qui parle pendant la COP26 en tant que représentant des entreprises, moi ça me fait bien rire parce qu'on sait que c'est Amazon qui produit énormément de pollution et qui aussi produit énormément de précarité au travail. Quand j'ai vu hier qu'il y avait eu Jeff Bezos, j'ai pas compris en fait. Il faut pas oublier que c'est beau d'inviter quelqu'un qui pollue énormément, donc ça prouve aussi que la COP26 c'est un peu une blagounette entre les dirigeants et les grandes entreprises face à la population. Et c'est pour ça qu'on va réagir samedi en disant nous on veut aussi que la COP26 elle soit là pour nous et pas pour les entreprises et pas pour la croissance entre guillemets verte. On est là aussi pour rappeler que la croissance verte, ça marche pas.
Ouais, comme dit Greta Thunberg, assez de blabla et puis assez de culpabilisation des gens. Bon, il y a quelques chiffres qui sont parlants quand même. Par exemple, la consommation d'eau des ménages, c'est 10% de la consommation totale de l'eau. Les 90% de consommation, c'est l'industrie et l'agriculture. Les déchets ménagers, c'est 10% de la totalité des déchets. Donc ça suffit de mettre sur le dos, culpabiliser les gens, économiser dans votre douche, etc., trier vos déchets. Mais bien sûr, il faut le faire. C'est une bonne chose de le faire. Mais n'oublions pas qui sont les responsables et où il faut agir, où il faut peser.
Jean, Morgan et Denis, tous trois membres du collectif Arajois pour le climat, la Marche pour le climat, dans le cadre de cette journée internationale pour peser sur les négociations de la COP26. Donc le rendez-vous Arajois, c'est demain, samedi 6 novembre, de 14h30 à 17h. Le rendez-vous de départ, c'est la place Foch, la place de la gare. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller lire le texte d'appel et plein d'autres informations aussi sur le site du collectif. Le site internet, c'est 1 et 2 et 3 degrés.com.